RMC.
Très très dur à comprendre pour les femmes, le hors-jeu.
Il faut que je vous explique le hors-jeu. Si vous courez et que vous passez avant que le ballon soit parti, si un gros copain, là vous êtes en position de hors-jeu.
La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute.
En tous les cas, pour les femmes comme pour les hommes, quand vous êtes tout seul, vous êtes pas bien. C'est clair.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Frédéric Piquion, avec Jonathan McCarty. Tiens, je vous rappelle les résultats de la soirée de Ligue 1. Avant cela, ça vient de se terminer. Quart de finale de la Cup entre Wolverhampton et Manchester United. Eh bien, les Wolves sont imposés 2-1. Alors, Raúl Jiménez et Diogo Jota, qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe A du Portugal, qui ont marqué pour les Wolves. Et c'est Rashford qui a marqué pour United en toute fin de rencontre. 29e journée de Ligue 1, 2-2 entre Nîmes et Strasbourg, 0-0 entre Angers et Amiens. Guingamp qui bat Dijon 1-0, match très important puisque Guingamp est barragiste ce soir et remonte au classement. Et Saint-Etienne donc, qui a mis une claque à Caen ce soir, 5-0. Et Saint-Etienne qui revient à un point de Marseille. Marseille qui jouera demain au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. On va en parler dans quelques instants. On écoutera notamment Thomas Tuchel, très remonté en conférence de presse, puisqu'on parle de conf de presse sur ce camp Saint-Etienne. C'est Christophe Lécuyer qui a suivi les confs pour nous. Salut Christophe.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Comment il va Christophe?
Salut Christophe.
Il va un peu mieux que le Stade Malherbe, messieurs.
Mais ah ça, ouais, il fait la gueule, le Normand, quand même, non?
Par les temps qui courent, c'est compliqué ici. Hein. C'était un calvaire ce soir, véritablement un calvaire qu'ont vécu les joueurs du Stade Malherbe, étrillés 5-0 sur leur pelouse. Ça fait évidemment plusieurs années que ce n'était pas arrivé. Vous imaginez bien la mine qu'affichait Fabien Mercadal lorsqu'il est arrivé tout à l'heure en salle de presse. Mais paradoxalement, eh bien, il a tenu un discours selon lui, doit être de nature à permettre aux joueurs de relever la tête. Alors, effectivement, il l'a dit lui-même, on peut en douter. Il a reconnu déjà, dans un premier temps, que tous ces joueurs avaient raté leur match ce soir, que l'erreur, évidemment, de Brice Samba, on le rappelle, cette erreur qui coûte le premier but signé Romain Amouma, avait littéralement mis la tête à l'envers à ses joueurs. On n'a rien montré, a dit Fabien Mercadal ce soir, et je comprends que les supporters nous aient lâchés, a-t-il dit. Fabien Mercadal qui dit néanmoins que ce soir sa priorité c'est de protéger ses joueurs après cette déculottée. On se doit de se battre jusqu'au terme de la saison, a-t-il dit, en montrant d'autres valeurs que celles qu'on a vues, ou plutôt qu'on n'a pas vues, évidemment ce soir. Si on doit descendre à la fin de la saison, on se doit, par respect pour nos supporters, pour notre public, de montrer autre chose que ce qu'on a vu ce soir. Ce qui est certain, a conclu Fabien Mercadal, c'est que si on n'est pas capable de faire autre chose, alors oui, on sera très probablement en Ligue 2 la saison prochaine.
On en parlait, Christophe, tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on fait un peu le yo-yo, joue avec le feu au niveau du maintien ces dernières saisons, est-ce que tu dirais que c'est l'un des pires matchs que tu as vu à Dornano ces dernières années?
Oui, indéniablement oui, parce que bon, déjà à la décharge des Canets, il y a évidemment, encore une fois, sans l'accabler, hein, mais cette faute de main de Brice Samba qui change quand même beaucoup de choses à ce moment-là.
Vu que ce qui t'a sauvé depuis le début de la saison. Hein.
Ouais, bien sûr, et ça Fabien Mercadal l'a dit aussi en conférence de presse tout à l'heure, c'était notre meilleur joueur, et ce soir c'est lui qui malheureusement a craqué à la 4e minute. Et là, vous imaginez que ça change quand même tous les plans de Fabien Mercadal et de Roland Courbis quand vous prenez un pion pareil à la 4e minute, ouais. Et surtout que ça fait 3-0 au bout d'une demi-heure. Quel discours tenir à la mi-temps, ouais, ouais. Face aux joueurs. Mais il y a pas eu de révolte. Il y a un tir cadré, messieurs, un tir cadré en 90 minutes du côté du Stade Malherbe de Caen. Cette équipe n'a pas d'orgueil, n'a pas suffisamment de talent pour pouvoir rivaliser.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais.
Évidemment,
ça manque de talent.
Évidemment, on n'en est pas là par hasard. Quand c'est pas Brice Samba qui fait une erreur comme ce soir, ça a été d'autres joueurs par le passé. Ça dénote quand même un certain manque de talent dans cette équipe cannaise. Ce qui est sûr, en tout cas, messieurs, ce soir, c'est que le club, évidemment, est en crise. Je vous rappelle quand même quelques éléments qui ont émaillé cette soirée. Le COP a rangé les banderoles à 2-0. Ouais. Le COP s'est livré à des haulés sur les passes stéphanoises en deuxième mi-temps. A scandé à plusieurs reprises, on est en Ligue 2, a scandé aussi le nom de Romain Amouma, un ancien Canet qui a été très bon ce soir. Et puis je vais vous confier que juste à côté de nous, en tribune radio, il y avait Alain Caviglia, le directeur sportif, et Gilles Sergent, le président du Stade Malherbe. Ça va sans dire que leur mine était déconfite. On les a sentis littéralement vidés, épuisés ce soir, les dirigeants du Stade Malherbe. Et on peut les comprendre après une telle défaite concédée à domicile.
Christophe, merci beaucoup.
Merci.
Merci, salut
Christophe. Bonne soirée Christophe, à très bientôt.
Ciao, monsieur.
Ciao, Christophe. Bisous à Alain Normandie.
C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est que t'es dans une équipe. Ok, tu prends un but dès la 80 minutes, t'as une erreur. Ça arrive. Mais après, que tout le groupe, il arrive pas à relever la tête. Y a pas quelqu'un, y a pas un leader
c'est
pour dire.
Le contexte.
Mais je sais que c'est le contexte, mais quand même, on est dans ce, tu manques de talent dans une équipe, mais y a d'autres valeurs. Y a plein d'équipes qui manquent de talent en Ligue 1. qui sont pas forcément meilleurs que Caen, mais ils ont d'autres valeurs pour de d'abnégation, d'état d'esprit, de révolte.
L'équipe quand est tu sais faible, que l'équipe
oui,
est
elle est faible, mais tu
regardes les lignes, sur chaque ligne, ouais, mais y a pas vraiment.
On pense que veut dire Fred. Enfin, mais... nous on se tape des certaines purges, faut le dire, en première ligue le week-end. T'as quand même des équipes qui ont un jeu rudimentaire. Bah, les mecs qui perdent, regarde Huddersfield cet après-midi.
Ouais. Voilà, 4-3,
il perd 4-3, il perd. Tu mènes 3, ok, mais tu.
Je pense que là, ce qu'on sous-estime peut-être côté Canet, c'est le contexte. Le contexte est vraiment terrible. C'est un club qui était extrêmement bien organisé il y a encore quelques temps et qui d'un coup
c'est ce que disait tout à l'heure notre
reporter. Exactement ce qu'il dit, c'est déstructuré d'un coup. T'as plus aucune continuité dans la politique sportive. Tu te retrouves avec un effectif qui est faible. Je pense que Caen est relativement à sa place. Et puis t'as cette situation un petit peu ubuesque avec Roland et avec l'entraîneur. Et je sais pas si c'est vraiment le contexte favorable pour que les joueurs arrivent à avoir cette réaction que certes tu attends, qui semblerait être normale. Mais là, quand tu vois ce qui se passe, je sais pas.
Pourtant, pour connaître Fabien Mercadal, puisque je l'ai eu à
PSG,
et c'est vraiment un super entraîneur,
c'est un super
passionné.
Entraîneur.
Alors même si, alors on dit oui, il connaît pas la Ligue 1, mais je peux vous dire qu'il connaît très très bien le football. Malheureusement, après, voilà, il y a d'autres circonstances par rapport au mercato.
Je pense que ça aurait marché, etc. Tu vois, dans un autre contexte, avec
peut-être
une direction mieux structurée, comme c'était avant avec Gravelaine et compagnie. Je pense que ça aurait pu mieux fonctionner.
En tout cas, Caen qui s'incline 5-0 à domicile face à Saint-Etienne et dernier de Ligue 1 ce soir. Et Guingamp qui s'impose 1-0 face à Dijon. Ça, c'est le fameux match de la peur. Eh bien, ils barragistes. Ils ont pris la place de Caen, justement. Les Guingampais qui ont 2 points d'avance sur les Normands. Xavier Grimaud a suivi ce match pour nous. Salut Xavier.
Salut Nicolas. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Salut.
Victoire 1-0 donc de Guingamp. Pénalty de Blas en toute fin de rencontre. Quelle fait du bien cette victoire pour Guingamp. Il était comment Gourvennec en conf de presse, Xavier?
Il était heureux, il était content, mais il était aussi mesuré parce que, comme il le dit, c'est uniquement une étape, mais il reconnaît quand même que c'est une énorme bouffée d'oxygène que cette victoire, comme il le dit, hein, Guingamp est troisième depuis le mois d'août. Les joueurs donc sont lanterne rouge quand ils regardent le classement tous les matins depuis le mois d'août, donc dans les têtes forcément ça pèse et ça va faire un bien fou. Il considère que c'est mérité au vu des dernières prestations de Guingamp. Il reconnaît que c'est poussif, mais il reconnaît aussi que son équipe donne beaucoup et que c'est finalement normal qu'elle soit récompensée. Et surtout, il le dit, il avait un rêve quand il est arrivé, enfin surtout après s'être qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, c'est ne plus être barragiste justement avant d'aborder 2 semaines de préparation pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est le cas maintenant et ils peuvent passer à la parenthèse enchantée, à savoir aller chercher pourquoi pas un titre en étant 18e et donc potentiellement en ayant toutes les chances de survie pour aller battre Strasbourg lors de cette finale. Donc voilà, il a parlé un petit peu des sifflets du public également, parce que le public a un petit peu râlé, même si à Guingamp quand même on reste extrêmement bienveillant avec son équipe. Il a dit que c'était normal parce que tout le monde était frustré. Il a salué également le sang-froid de Ludovic Blas, hein, quand même. Hein. Il a 20 ans, il a pris la responsabilité de tirer le péno, hein, c'était pas simple. C'est Nolan Roux plutôt qui devait le tirer, mais il ne se sentait pas de le tirer, Nolan Roux, au vu de sa saison compliquée. Donc voilà, saison qui commence à prendre de l'épaisseur pour les Guingampais. En revanche, pour les Dijonnais, messieurs, ça devient très compliqué. Vous avez vu le match, une première période qui est plutôt réussie de la part des Dijonnais. Ils ont essayé de créer du jeu, mais Camboiré a bien résumé en disant qu'il avait le sentiment que ces joueurs auraient pu jouer 10 heures, 15 heures sans jamais réussir à marquer parce que dans les 30 derniers mètres, ils n'y arrivent absolument pas. Et que va falloir qu'il trouve la solution. Il a félicité Guingamp en disant qu'il était content pour son ancien club qui avait réussi à gagner ce match important, mais que voilà, il restait maintenant une trêve pour se régénérer et maintenant Dijon était le chasseur et non plus le chassé, que c'était une position qu'il aimait bien, Antoine Camboiré.
Et vas-y. Moi j'ai une question, Xavier, t'as des nouvelles de Lucado?
Oui, Lucado, c'est une des images de la soirée, hein. Il a vraiment
craqué. Elle est sortie en pleurs,
blessé.
Ouais, il est sorti. C'est pas des petites larmes, hein. C'est vraiment des sanglots très très forts de la part de Lucado. En fait, il s'est visiblement refait mal, blessure musculaire, au même endroit que la blessure qu'il avait éloignée plusieurs semaines des terrains en fin d'année dernière. Et ce que dit Jocelyn Gourvennec, c'est sans prévaloir de la gravité de la blessure, c'est que Lucado a sans doute eu peur, peut-être déjà de rater la finale et peut-être même de voir sa saison terminée et de lâcher ses camarades à un moment important. Et puis il faut savoir aussi que Lucado, vous l'avez vécu ces dernières semaines, est l'un des joueurs guingampais qui est le plus venu face à la presse pour dire.
On l'a eu la semaine dernière.
Voilà, vous l'aviez eu dans l'after il y a 15 jours.
Grâce
après
à toi d'ailleurs.
Après son but face à Angers. Après son but face à Angers.
Ah oui.
Il met beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, et je pense que ses larmes, c'est clairement les nerfs qui craquent de ne pas pouvoir aider son équipe. C'est un guerrier, Lucas, on peut pas lui enlever, malgré tous les déchets techniques qu'il peut avoir dans le cœur, il y est toujours.
Ah, il est exemplaire, surtout dans les moments quand t'es dans le dur. C'est le genre de joueur, tu pars à la guerre avec lui, hein, quand t'es dans cette situation-là, il est super important. Ça serait un très gros coup dur qu'il ne l'ait pas.
Exactement. C'est exactement ça.
Tu dirais, Xavier, que c'est la meilleure équipe Guingamp, là, des trois équipes qui jouent le maintien entre Guingamp, Dijon et Caen?
Ouais, je trouve que, alors, dans les qualités de joueur pur.
En tout cas, au niveau effectif, oui.
Au niveau effectif, oui. Et pourtant, Fred, il y a des joueurs qui ne performent pas vraiment, hein, malgré tout ce qu'ils pourraient, tout ce qu'on pourrait être pensé de les voir faire. On peut penser à Marcus Thuram, on peut penser à Nolan Roux. Mais c'est surtout dans l'état d'esprit. Je trouve que c'est une équipe qui met toujours du cœur. C'est qu'il y a beaucoup de mal quand même dans le jeu, dans les 30 derniers mètres, à être dangereux. Mais sur la dynamique, ils l'ont déjà fait. Gourvennec sait canaliser ses joueurs. Il y a cette finale de Coupe de la Ligue. Franchement, je suis pas loin de les mettre favoris face à Strasbourg. Ils ont un calendrier qui est plus simple que Dijon, qui est plus simple que Caen.
Xavier, On a beaucoup parlé de Jardine à Monaco, mais depuis que Gourvennec est revenu, il a quand même aussi bien redressé la barre. On fera l'analyse de la saison de Guingamp. Ce sera lui la figure principale, le protagoniste de cette saison-là, quoi.
Ah oui, mais ils étaient condamnés, hein, les Guingampais. Pourtant, je crois que c'est la troisième victoire depuis que Gourvennec est là. Mais il a grignoté des points, pris des nuls également. L'équipe prend moins de buts, l'équipe est plus dynamique, l'équipe court beaucoup plus. Également, ça c'est une donnée importante que Jocelyn Gourvennec met beaucoup en avance, et ils font des efforts phénoménaux avec des joueurs qui dépassent parfois les 13 km par match, hein, c'est énorme, notamment Lucado. Donc c'est une équipe qui a retrouvé un état d'esprit, et c'est Gourvennec qui est pour beaucoup, il a une aura ici, ses joueurs l'écoutent, et pour l'instant il faut bien dire que ça marche, à défaut d'être brillant, c'est sûr.
Ah ouais.
Xavier, merci beaucoup.
Salut Xavier.
Merci messieurs.
À bientôt Xavier, bonne soirée à toi. Bisous Xavier.
Ouais, bisous.
Coquin. Tiens, une petite stat, c'est vrai que Xavier le disait également, que pour Dijon ça va pas bien du tout, et alors il y a un vrai problème offensif à Dijon. Je suis en train de regarder, sur les 7 derniers matchs, toutes compètes confondues, Dijon ils ont inscrit un but.
Oui, c'est très peu.
Alors ils perdent 2-0 contre Nîmes, ils perdent 1-0 contre Saint-Étienne, ils perdent 3-0 contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France, ils perdent 1-0 à Lille, ils font un partout contre Reims, ils perdent 4-0 contre le PSG, et là ils viennent de perdre 1-0 face à Guingamp. Un but marqué en 7 matchs.
J'ai l'impression que justement Tavares, il a pas trouvé le joueur avec qui il pourrait être complémentaire dans cette équipe. Parce que ça marchait très bien avec Diony, l'année où ils ont flambé tous les deux justement.
Jérôme Thomas me dit il a pas marqué depuis le mois d'août, Julio Tavares.
T'imagines. Ouais. Ça fait quand même et pour avoir joué des matchs avec Dijon, il en a joué. Hein.
Ouais.
Donc quand on est dans cette spirale un peu de négative où t'arrives pas à marquer, tu cogites, t'es.
Mais pourtant il y a des joueurs de ballon.
Hein, il joue avec Jeannot, il y a Sliti, mais c'est les trois en fait qui sont. Alors Sliti quelquefois a été le meilleur Dijonais sur les lignes offensives, mais ça reste trop irrégulier. Et c'est dommage parce que les trois joueurs sont ces trois beaux joueurs quand même.
Non, c'est des bons
Jeannot,
joueurs.
Jeannot par exemple,
ils n'arrivent pas à jouer ensemble.
Exactement. Donc, je trouve que Sliti, moi, je le verrais peut-être un peu plus dans l'axe. Jeannot, le mettre quand il joue souvent sur un côté, j'ai du mal à comprendre. Je pense pas que ça corresponde à ses qualités. Je pense que Camboré veut absolument jouer avec ce schéma-là en 4-3-3, mais je me demande s'il a vraiment les joueurs pour au final.
Ouais.
Si c'est pas un problème d'adéquation entre les ressources que t'as et ce que tu veux mettre.
On parlait de Tavares là qui cogite là forcément. T'as connu toi des périodes de doute comme ça en tant que buteur?
Bien sûr. Oui, j'en ai connu. Il y a des.
Comment
tu
gères ça?
Il y a des périodes. Tu gères pas. Tu gères pas, mais tu te caches aussi derrière le boulot. T'essaies de pas trop entendre ce qui se dit aussi à l'extérieur, parce que quand t'en mets un, c'est très difficile. Et quand t'en mets un, ouais, c'est la libération, parce que tu te dis voilà.
Au bout de combien de matchs tu commences à douter quand tu marques pas, quand ton rôle c'est de.
Après, ça doit dépendre du scénar. Si tu foires, ça dépend du nombre d'occasions que tu foires, surtout, non?
Ouais, aussi. Parce qu'il y a des fois où t'arrives, tu te dis c'est bon, je vais la mettre. Le gardien il fait l'arrêt, ou alors tu mets à côté. T'as un plat du pied simple à faire. Tu sais plus. T'es plus lucide, tu fais beaucoup d'efforts pendant un match, tu te dis bon allez ce soir c'est bon, c'est ok, et finalement tu marques pas, et ça m'est arrivé de rester 3-4 mois sans marquer et faire une saison à 5-6 buts en étant titulaire, et c'est dur pour l'équipe, c'est dur pour soi,
Et c'est dur pour tout le monde.
Du coup, Jérôme Thomas me demande, le fait que t'aies pas marqué la dernière fois au Urban, est-ce que tu cogites?
Non, mais non, je cogite plus. C'est trop facile ouais, de jouer bien. Avec vous. Je vous laisse gagner.
Bah, moi, Nico m'a dit que t'étais nul au Urban pour tout à l'heure. Il m'a dit, en plus d'être un sale type, il est nul au Urban.
Ouais, il m'a dit, alors ça, c'est moi, tout à fait moi. Pour rien, hein. Là, il va reprendre après, ton compte avec lui, hein. Alors, il va reconnaître mes propos. Alors, on avait posé la question à Xavier Grimaud il y a quelques instants, mais c'est vrai que parmi les trois, là, qui jouent le maintien, parce que c'est vrai qu'on peut dire que, ah, mais quoi qu'il y a bien, ils sont bien, mais.
Jean-Marc, la maison du whisky, il est sauvé.
Non, mais, oui, je sais, oui, il a sauvé le whisky. Bon, ils ont 7 points d'avance, ça vient sur Guingamp.
D'après ce qu'on voit, quand même, c'est Caen qui commence vraiment à être très
faut regarder les dynamiques. Les dynamiques, tu regardes la dynamique d'Amiens, depuis janvier, Amiens, ça marche super bien.
Après, franchement, la dynamique de Dijon, les mecs, je veux pas dire. Mais...
c'est pas non plus, ils prennent des points, oui, mais.
Ils ont, sur les 5 derniers matchs, ils avaient 4 victoires. Je crois que sur les derniers matchs, c'est 4 victoires et 2 nuls. Ça va. Depuis qu'il est passé en 4-4-2, ça va très très bien. C'est une équipe qui, en plus, on le dit toutes les semaines, mais a beaucoup de personnalité. Et en plus, à Jean-Marc de la Maison du Whisky. Ceci étant dit, moi, ce que je vois, c'est en termes de dynamique, t'as Guingamp qui, avec le retour de Gourvenec, s'est remis la tête à l'endroit. Alors, c'est pas hyper sexy, mais c'est hyper cohérent ce qu'il propose. Et ça, c'est important quand tu
vois. Tu vois Guingamp barrage et Dijon Caen.
Je pense que Dijon et Caen, Dijon, c'est une lente descente aux enfers avec des joueurs qui ont aussi l'air d'avoir un petit peu la tête sous l'eau, et puis quand j'ai l'impression qu'ils sont résignés, c'est ça le dramatique.
C'est le mot que tu emploies. Vous vous souvenez que Corentin, supporter de Caen, fidèle de l'after,
vient de nous lâcher un
tweet sur le hashtag RMC Live, vous pouvez réagir également. Autant je suis résigné ce soir, mais dire qu'il y a une différence de niveau entre les trois derniers est totalement faux. C'est un détail qui fera la différence, mais les trois équipes sont quasi pareilles, avec tout le respect que je leur dois.
Bah, voilà, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Guingamp est plus cohérent dans ce qu'il propose. Guingamp a un vrai plan de jeu. Guingamp s'en tient à ce qu'ils savent faire.
Et puis, au moins, Corentin, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est cyclique. Souvenez-vous de ce qu'on disait sur Guingamp, il y a peut-être 2 mois.
Mais Gourvenec est revenu.
Oui, d'accord, mais.
Ça change beaucoup de choses. Ouais. Et là, l'enseignement de cette saison-là, ça sera qu'au final, c'est pas forcément mauvais de retourner avec ses axes, hein. Regarde Jarding et regarde Gourvenec.
D'accord.
Non, rien.
Bah non,
c'est le retour. À toutes mes anciennes petites copines, je leur dis bonsoir. Salut.
Ce soir, donc, Guingamp s'est imposé 1-0 face à Dijon, penalty de Blas en toute fin de match. Saint-Etienne est allé gagner 5-0 à Caen. 0-0 entre Angers et Amiens. Angers qui a raté un péno en toute fin de rencontre. Et puis 2-2 entre Nîmes et Strasbourg. Sachez que dans ce match, les Strasbourgeois ont mené 2-0, que l'assistance vidéo a fait des siennes, que Gilbert Brébois est super vénère. Nous, on revient dans quelques instants.
Il a fait le hooligan, là. Il a tout cassé, pareil.
Ah, mon gars, je suis vénère. On revient à J-1 du Paris Saint-Germain-Marseille. On entendra Thomas Tuchel qui s'exprime sur les supporters du PSG mécontents. Ouais. Sur d'anciens du Paris Saint-Germain très critiques vis-à-vis des Parisiens qui n'ont pas fait le taf selon eux en 8e de finale de Ligue des Champions. Thomas Tuchel a-t-il raison de défendre à tout prix son équipe? C'est la question qu'on vous pose. On vous attend sur le hashtag RMC Live au 32-16 sur l'application Direct Studio avec Fred Piquion et Jonathan McCarthy. À tous.
RMC L'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Frédéric Piquel et de Jonathan McCarthy, 29e journée de Ligue 1. Il en reste plus beaucoup les mecs. C'est bientôt la fin du championnat.
Il faudra qu'on fasse le bilan du championnat.
Bah oui, c'est vrai. On aura le temps cette fois. Quoi qu'on aura un été très chargé, vous savez que l'after ne s'arrête jamais. Hein.
Ouais.
Mais il y a Copa América.
Eh oui.
Il y a la Ligue des Nations. Il y a la Coupe du Monde féminine. Il y a, enfin bref, on va pas s'arrêter.
La Gold Cup,
c'est quand quoi? Mais c'est quand? Non, il y en a une
du
ou pas?
15, ouais. Du 15, c'est du 15, mercato. Du 15 juin au 7 juillet.
Et bah, parfait. On prendra. On prend.
Et on va avoir un mercato tout de suite.
Bah, tu sais, en plus, il y a un journaliste de RMC qui vient nous suivre, avec la sélection de Martinique. Il va venir le 23.
C'est bon, ça.
Et il sera en inside.
Il y a qui, dit, en sélection de Martinique en ce moment, là?
Qui serait, en Ligue 1, il y en a pas. En Ligue 2, on a pris, Kevin Fortuné.
Ah, bien.
On a pris, qui d'autre? on voulait prendre Lapi qui joue à Niort, mais il s'est blessé aux ischios hier. On a pris Thomas Festion.
Oui, qui joue
de Orléans.
Qui est passé à Marseille aussi,
qui
non
à Marseille, qui a ouais. joué à
ouais, passé par Marseille, il avait un gros potentiel au début quand il est sorti.
Et voilà, et puis dans
deux il était avec Jean Fernandez, non?
Ouais, il y a Denisa du Red Star.
On l'a pris aussi Denisa, mais pas là.
D'accord.
Non, il sera pas là.
Ouais, qui a vu une fortunée. Je suis en train de regarder l'équipe.
Fortuné, Jobello.
Ouais, c'est Jobello, bien sûr.
Il
joue maintenant, là.
Il joue à Ajaccio, au Gazélec.
Ok. Ça se passe bien?
Ça va. Il joue, cette année, il joue plus que la saison passée, en tout cas.
Il était très, très bon, lui aussi, avec les jeunes à Marseille.
Ouais.
Vous savez qui est le joueur le plus à franchir le cap avec la première? Ah ouais?
Ouais.
Ah,
je savais pas. Germain.
Vous savez qui est le joueur le plus sélectionné de la sélection de Martinique?
Fred?
Non.
Non.
Bah non, sûrement pas.
C'est qui?
C'est pas du tout.
C'est pas qui c'est?
Non.
José Carl Pierre Fanfan.
Ah ouais.
José, il a joué en sélection?
Ah bah écoute, moi, je suis sur la fiche Wikipédia. Alors, peut-être à moins que Wikipédia soit planté, ce qui peut lui arriver.
Ouais, parce que j'ai jamais vu José.
Ah bah oui, mettre 72 caps, hein. Alors, pas qu'un peu, en plus, hein.
Oh putain.
Oh là là, José, il a pas dû faire beaucoup de matchs avec la sélection, hein.
Bah, il dit 72, donc il en a fait quelques-uns. Ouais. Attends, ils disent 98, 2009, donc il a eu le temps de jouer, le mec, quand même. Ah ouais, José Carl Pierre Fanfan, himself.
De 98 à 2000, mais c'est des Tommy.
Tu penses, toi?
Bah oui. C'est José, il est arrivé sur Wikipédia.
José, je suis sûr
José l'a mis sur Wikipédia, il a, parce que maintenant, on peut me dire.
José,
il a dit, c'est bon,
je suis sûr qu'il nous écoute.
Il doit vouloir négocier un poste, tu sais, un truc, un peu, elle a dit, j'ai grossir ma liste de sélection,
Non, j'ai déjà pris le poste.
C'est vrai?
Moi, le manager général, donc, c'est mort.
José Carl Pierre Fanfan, ancien défenseur, notamment du Paris Saint-Germain, transition toute trouvée, J-1 avant PSG Marseille. Alors, tiens, petite info qu'on vous donnait tout à l'heure et qu'on vous rappelle, Balotelli qui n'a pas voyagé avec le groupe marseillais jusqu'à Paris, l'Italien qui est grippé, très incertain pour le match de demain, il pourrait rejoindre les joueurs de l'OM demain s'il va mieux. Du côté du PSG, grosse tension après l'élimination en 8e de finale de Ligue des Champions. Le collectif Ultra Paris qui a annoncé qu'il ferait grève des tribunes pendant les 30 premières minutes du match face à Marseille. Thomas Tuchel était aujourd'hui en conf de presse. Il a répondu au collectif Ultra Paris, à tous les supporters parisiens mécontents. Et lui aussi, il était mécontent, Thomas Tuchel.
On sait qu'ils sont déçus. On sait. C'est pas nécessaire de nous montrer encore et encore et encore. C'est pas nécessaire. On a compris. Mais les plus déçus sont nous. Et l'équipe et le staff, nous nous sentons ensemble. Nous nous sentons pas comme nous sommes l'équipe, nous sommes le staff, et vous êtes les supporters. Non, non. À mon avis et à tout notre avis, nous sommes ensemble. Et pour ça, j'espère qu'ils changent, ils changent l'opinion et ils vont pousser jusqu'à la première minute parce que c'est nécessaire, c'est le sport. On a fait tous et c'était un accident, mais...
Voilà, Thomas Tuchel donc qui répondait à la colère des supporters et notamment au collectif Ultra Paris. Deuxième coup de gueule également de l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a répondu aussi à certains anciens joueurs du club qui reprochent à leurs successeurs et aux actuels joueurs du PSG d'avoir manqué de caractère.
Et pour ça, c'est les joueurs ont, qui disent ça, ils ont perdu jamais, hein, grâce à ça. Ah oui, c'est très très facile. Et je dois défendre mon staff et mon équipe. Je dois défendre parce que c'est pas comme ça. Ce sont pas des joueurs qui ont joué ici et gagné la Ligue des Champions, non? Ah oui. Et pour ça, ok. S'ils ont gagné la Ligue des Champions, ok. C'est bien, il doit venir et parler avec nous pour améliorer, mais c'était pas comme ça.
Voilà, Thomas Tuchel a-t-il raison de défendre à tout prix son équipe? Alors il répond à tout le monde, hein, du coup, bah, Thomas Tuchel.
Il a raison de défendre son équipe de toute façon.
Aux anciens joueurs.
Le coach, il est fait pour ça. Ouais,
alors est-ce qu'il
un coach, c'est fait
pour... Oui, mais est-ce qu'il a les bons arguments?
Là, il est ridicule. Pour moi, il s'est ridiculisé avec cette conférence de presse, pour plusieurs raisons. Alors déjà, dans les anciens, il y a quand même Bernard Lama. Il me semble qu'il a gagné 2-3 trucs avec le Paris Saint-Germain et qu'il est relativement légitime de par sa place dans l'histoire du PSG pour donner son opinion. Donc déjà, il aurait mieux fait de la fermer là-dessus. Ouais, en plus.
Du monde un peu quand même.
Mais c'est surtout par rapport au PSG dans le contexte parisien. Ouais. Ensuite, moi, ce que je trouve totalement stupide de sa part, c'est quand il dit les supporters, on a compris machin. Les supporters, ils ont le cœur brisé en 1000 morceaux. Après ce qui s'est passé, les supporters ils se sentent humiliés. Alors si certains joueurs disent ouais voilà on est triste machin et tout, mais mettez-vous à la place des gens qui sont dans les tribunes qui alors c'est un peu démago mais qui payent pour suivre cette équipe là, pour faire les déplacements, pour aller au stade, pour acheter les maillots. C'est horrible. Et alors si je suis désolé, si la manifestation c'est une grève d'encouragement, c'est pas grand chose pour moi. C'est pas je sais pas comme à Marseille où les joueurs finissaient dans le coffre d'une voiture, il y a rien de dramatique. Donc déjà, il a perdu une occasion de se taire sur le coup. Il a perdu donc une deuxième occasion de se taire sur le deuxième coup avec Bernard Lama. Et la troisième occasion de se taire qu'il a perdu par rapport à ce qu'il dit, c'est quand il dit oui, mais mon équipe, elle a montré du caractère. Non, Coco, non, c'est pas vrai. Vous vous êtes fait dessus. Et je pense que pour que le club avance, pour que ton groupe avance, pour que tes joueurs progressent, il faut admettre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, bah, le diagnostic est simple. C'est pas un accident. C'est que je t'ai fait dessus, que c'est que ton équipe, elle est coutumière du fait, hein. Parce que les joueurs qui ont fait qui avaient subi la remontada à Barcelone l'ont aussi subi là. Il y a trop de joueurs qui sont dans ces deux aventures. Et je pense que maintenant, il faut mettre un grand coup de balai dans cet effectif-là. Faut que le club se restructure. Mais il faut pas raconter des mensonges en conférence de presse. Parce que là, tu te ridiculise et il s'est déjà ridiculisé à cause de l'élimination contre Manchester, parce que même s'il est pas, on a beaucoup loué son travail hein, depuis le début de la saison, on remet pas ça en cause, mais il fait quand même partie de l'histoire de Manchester, donc là tais-toi et sors pas des absurdités pareilles.
Alors d'accord, pas d'accord avec Thomas Tuchel et du coup avec Jonathan McCarthy, on vous attend 32-16 pour y répondre. Qu'est-ce que t'en dis toi Fred? Toi tu dis il a raison au final.
Moi je dis il a raison parce qu'il faut, il faut quand
on mentir dans... alors
bien sûr, mais
il faut mentir, bien sûr. On va couper et l'envoyer à ta femme, ok?
Non, j'étais sûr que t'allais sortir ça, toi.
Non, il faut pas.
C'était où, chérie? Alors, pourquoi t'es rentré à 2h? Bah, j'ai été au travail.
C'est pas mentir, c'est être,
il a sauvé les apparences.
Non, bah oui, parce qu'il faut être langue de bois et on le sait très bien.
Parce que là, on est dans un. Tu brigues la présence de la Martinique, c'est ça?
Non, parce que là, on est dans un grand club, il veut protéger ses joueurs, il veut protéger son staff, il veut protéger aussi les instances du Paris Saint-Germain, et il entend des choses peut-être des anciens. Il entend des choses peut-être des anciens joueurs qui ne lui plaisent pas, qui lui plaisent pas.
Il veut se protéger lui, c'est ça.
Qu'il veut se protéger. Je vois pas un entraîneur d'un club.
Ah bon?
Qui se protège pas.
Écoute Guardiola, quand il perd, il prend les responsabilités, quand il fait des conneries, il les assume. On regarde Marcelo Bielsa, quand il vient en conférence de presse, il assume à chaque fois. Il assume pas que son équipe a manqué de caractère. Ok, il assume pas que l'élimination c'est pas un accident, qu'il s'est gouré dans la lecture tactique de ce match-là et dans ses changements.
Ouais, mais tu trouves pas qu'il est dans son rôle finalement à répondre aux anciens joueurs? Je pose la question.
Alors c'est autre chose, mais là on parle de l'élimination en Champions League.
Là on parle plus de la réponse.
Accident,
là.
c'est pas un argument.
On parle de la réponse aux supporters et aux anciens joueurs. Là il est dans son rôle, non?
Non, il a pas à répondre ça parce que déjà il devrait se renseigner sur d'où viennent les critiques. Bernard Lama, je suis désolé, il est totalement légitime pour critiquer.
Ouais, mais je pense qu'il y a pas que bon. Bernard, à mon avis, il a dû lire plein de choses.
Et par rapport aux supporters,
il y a pas
désolé.
Bernard Lama. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est derrière. Chez nous, RMC, déjà, il y a Jérôme Bretagne, il y a Pierre.
Il est légitime aussi.
Il y a eu Jérôme Leroy, il y a eu Bernard Lama, il y a Loric Salin. Enfin, ces derniers jours, il y a beaucoup d'anciens joueurs.
Loric,
il est un peu marseillais aussi,
un peu beaucoup.
D'accord.
Mais par rapport, moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est par rapport, alors, outre le fait de la Ligue des Champions, pour moi, c'est pas un accident. Il se protège, il se cache, et je trouve ça dommage parce que je pensais pas ça de lui, je pensais pas qu'il ferait ça, mais par rapport aux supporters, tais-toi, mec. Les supporters ont le droit de faire la grève, je suis désolé, après l'humiliation que tu as infligée à ton club là, si les supporters viennent faire la grève, ils ont le droit, et ils ont pas à t'encourager après ce qui s'est passé.
Ils ont pas le droit, il dit seulement, venez nous encourager au lieu de faire la grève.
Il critique le mouvement de grève.
Il demande à ses supporters.
Mais les supporters, c'est pas des moutons, Fred, c'est pas j'en prépare ton ticket et tais-toi, c'est des supporters, c'est pas des spectateurs.
Et comment ça, c'est pas des moutons, on parle pas de supporters, on parle pas de moutons. On dit, venez, il y a un match très important pour nous, le match contre l'OM, venez nous supporter.
S'ils veulent pas, ils font la grève, c'est leur droit. Après ce qui s'est passé.
Pourquoi tu vas au stade?
Mais parce que c'est dans les supporters ont une fonction dans un club, dans une équipe. Le Paris Saint-Germain est bien content d'avoir son stade plein, d'avoir.
Non mais
pour moi, c'est légitime, ils sont dans leur bon droit.
Moi, je comprends ce que vous dites tous les deux finalement. C'est-à-dire, Jonathan a raison, quelque part, t'es supporter, t'as le droit d'arrêter de supporter ton équipe, mais t'es entraîneur, t'as le droit de dire à tes supporters qui veulent arrêter d'entraîner, leur équipe. Les gars, nous, on préférait que vous le supportiez.
Sauf Nico, là, quand t'as fait ce que t'as fait contre Manchester, t'as le droit de rien si ce n'est de te taire.
Bah là, il répond en l'occurrence.
T'as le droit de rien et de surtout pas commenter ce que vont décider tes supporters. Tu te tais, tu viens, tu baisses ton froc, tu prends ta fessée et t'acceptes.
Et bah, supporters du PSG, on vous attend justement pour y répondre et avoir votre avis. Comme Thomas, supporter qui nous appelait au 32-16. Salut Thomas.
Salut Nico, salut Joe et Fred.
Salut Thomas. Thomas.
Alors Thomas, qu'est-ce que t'en penses là des explications de Thomas Tuchel qui défend à tout prix son équipe et qui le dit, moi je dois défendre mon staff et mes joueurs?
Ben oui, par rapport à sa position en tant que coach, forcément la première chose qu'il va faire, c'est essayer de défendre ses joueurs parce que je pense que c'est dans l'intérêt du club de faire front, de se serrer les coudes. Après il y a aussi un problème de timing. Ok, pour défendre les joueurs, moi de sa position je peux comprendre. Par contre, le timing est mauvais dans le sens où t'as Kimpembe qui fait une sortie aussi dans les médias deux, trois jours avant en disant qu'il a pris ce match, enfin, qu'ils ont pris ce match avec de la suffisance. Et le souci, c'est que Tourelle, il a quand même, il met en avant le fait que ce soit un accident en disant qu'il a tout fait pour bien préparer ce match. Et je pense qu'il a tout fait pour bien préparer ce match. Mais si t'as des mecs comme Kimpembe après qui sortent ce type d'excuses, on a pris ce match avec la suffisance, c'est pas normal. En fait, les avis et les explications se tiennent pas entre elles.
Mais je suis pas sûr que tous les joueurs du PSG ont pris ce match avec de la suffisance, hein.
Ouais, mais il le sort trop tôt. Il le sort trop tôt dans un timing. Il est pas bon son timing avec Kimpembe pour expliquer. Tais-toi. En fait, ne dis pas, foutu la honte et ne dis pas des choses comme ça.
Exactement.
Limite que Tourelle défende ses joueurs, c'est normal. Voilà, ok. Et puis Joe, je te rejoins sur un point, c'est que les Tourelle ne doit pas forcément critiquer, on va dire, le fait que les supporters aient une réaction, parce
surtout
qu'on a
pas
le droit d'avoir une réaction. Et puis on a le droit de montrer au club qu'on est déçu. Alors après, est-ce qu'il y a une bonne manière de le faire? Je sais pas. Est-ce que la grève, c'est une bonne manière? Je sais pas du tout.
Moi, je trouve
mais
ça bien.
Mais sincèrement, il faut quand même faire comprendre aux joueurs et
au club.
C'est pas
violent, c'est pas, tu vois.
Mais je suis pas sûr.
C'est symbolique.
Non. Je suis pas sûr que ça soit vraiment la meilleure solution de venir au stade, faire une grève pendant une demi-heure et de se dire.
Je vais vous dire pourquoi c'est une bonne idée. C'est parce que c'est un match contre l'Olympique de Marseille qui va être vu, où le match est vendu. Un des arguments de vente de ce match-là, c'est les tribunes, c'est l'ambiance, c'est le feu, c'est les fumées, etc. Et de faire la grève lors de ce match-là, qui est en plus le dernier match, si ce n'est la finale de la Coupe, le dernier match en jeu du Paris Saint-Germain, c'est très significatif, c'est très symbolique, et tu marques un grand coup en tant que supporter. Et je trouve ça beaucoup plus intelligent de faire ça, de faire la grève, que d'insulter tes joueurs, que de les siffler, etc. Ou d'être
d'aller au
candélaire. C'est beaucoup plus intelligent.
De toute façon, tout ça, ils l'ont fait juste après le match de Manchester.
Oui. Ça a été soft.
Ouais, mais il faudrait une réaction, si vous voulez,
ça a été proportionnelle soft et organisée par le club,
déception. Il faudrait une réaction proportionnelle à la déception et même aux déceptions. Je vais parler au pluriel.
Ouais, mais c'est quoi la réaction proportionnelle alors, Thomas?
Eh ben, je sais, non, mais justement, j'en avance pas.
Tu les amènes dans une boîte de mazo, tu les fouettes, là?
Non, mais je veux dire, voilà, mais nous, on est tellement déçus, ça se trouve. Moi, je disais avec un ami l'autre fois, ça se trouve, je suis plus déçu que certains joueurs, j'en sais rien, je sais pas.
Bah,
mais
bien sûr.
Mais voilà, et je suis
c'est pour ça que je disais que est-ce que c'est vraiment la bonne solution, parce que moi je pense que sur le terrain il y en a, même si que les tribunes soient pleines ou pas pleines, il y en a. Et
après, perso, je pense pas que ce soit la bonne solution. Fred, tu vois, par exemple, moi je suis dans un état d'esprit où j'aime mon club, je supporte mon club depuis des lustres, hein, tu sais, voilà, ça fait je suis porteur depuis 96. Et ben demain, j'apprécie quand même de jouer contre Marseille et j'aimerais bien qu'on ait une réaction sur le terrain, enfin que les joueurs nous trouvent sur le terrain et leur encole, j'aimerais bien 3 ou 4, forcément ça n'enlèverait pas la douleur de Manchester, mais au moins, voilà, au moins les joueurs montreraient quelque chose et auraient peut-être compris.
Mais Thomas, je vous pose la question à tous et à vous aussi au 32-16, mais vous trouvez pas que globalement, là, depuis cette élimination, alors il y a là la sortie de Tourelle, alors on est d'accord ou pas d'ailleurs, il est dans son rôle ou pas, mais entre, tu parlais de Kimpembe, Mbappé, hier on citait Di Maria, la gestion du Carabion en termes de communication, vous trouvez pas qu'en termes de com, d'une façon globale, c'est complètement foireux ce qu'il a fait depuis l'élimination?
Je vais en revenir au même point de départ. Et à la même conclusion, il y a pas de président dans ce club-là, si ce n'est un incompétent qui s'appelle Nasser Al-Khelaifi. Donc maintenant, quand t'as personne qui tient la maison, il y a tout qui part dans tous les sens. C'est ça qui
se ça date pas d'hier. Le problème de com du PSG ne date pas d'hier, ne date
en
pas
plus.
D'avant Manchester. Il date depuis
depuis que Leonardo est parti.
Depuis que Leonardo.
Parce que Leonardo tenait tout.
Le Carabio en lui-même reflète la communication désastreuse du PSG. C'est sûr qu'au niveau de la présidence, après Nasser, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup pour le club, qui a amené quand même aussi quelque chose. Peut-être qu'il est temps de changer. Après, je sais pas, moi,
c'est pas lui qu'il faut changer, c'est amener quelqu'un, amener un ancien. On le voit dans toutes les équipes d'Europe qui gagnent des choses. Il y a toujours un ancien joueur qui a fait gagner peut-être l'équipe et qui connaît le club.
Il a fait trop d'erreurs, Nasser.
Mais Fred, je vais te répondre, ce qu'a répondu souvent ici Pierre Ducrot, et je suis assez d'accord avec lui. Moi, je veux bien qu'on ramène un mec, un symbole fort, mais faut que t'aies un mec qui ait aussi les compétences et l'envie de le faire. Aujourd'hui, tu as qui? Quel ancien du Paris Saint-Germain, joueur emblématique,
Il faut donner l'envie aussi.
Non, mais il n'y a pas qu'une question d'envie.
Mais c'est un boulot, faut les compétences.
Il y a une compétence.
Il y en a un seul qui s'appelle Leonardo et qui est au Milan AC.
Exactement.
Il y a des compétences, il y a des formations, il y a des choses, je suis d'accord avec vous.
Non, mais t'es pas un tel PSG, faut un mec qui arrive, qui a déjà un réseau, qui s'en
place. C'est pour ça
que je parle de compétences.
Il y a un carnet d'adresses, ok, mais il faut aussi, il faut donner l'envie. Aujourd'hui,
ça suffit pas, Fred.
Bah si, faut donner l'envie au club.
PSG, c'est pas un, on parle pas d'un petit club.
Si on voit dans ton club.
Ah, l'envie au club, ok.
Oui, si on voit dans le club qu'il y a des joueurs ou des anciens même qui reviennent dans un staff, dans des équipes de jeunes, en direction générale, après oui effectivement les gens ils vont commencer à revenir,
c'est plutôt l'effet inverse, ils sont en train de se mettre les anciens à dos.
C'est ce que je dis, juste pour répondre très brièvement sur Nasser, c'est que il a cumulé trop d'erreurs, il s'est très mal entouré. Là encore, ce qu'il fait cet hiver en ne tranchant pas entre Tourelle et Enrique, qui ont failli en venir aux mains le dernier jour du mercato, c'est pas possible. De laisser Enrique faire ce qu'il a fait à Tourelle, de s'aborder le mercato hivernal, c'est pas possible. C'est lui qui a choisi les gens en place. C'est lui qui a choisi. Non, mais alors, ok. En tout cas, il y a une guerre ouverte entre Tourelle et Enrique. Oui, oui. C'est ok.
Ça, c'est
le rôle du président tranché. Je suis désolé. Et ça, il ne le fait pas. Et là,
mais tu sais quoi? On en revient à la question de la communication.
Juste sur une chose. Et là aussi, ça va rejoindre ce que tu vas dire sur la communication. Regarde. Quand il y a l'affaire Aurier, qu'est-ce qu'il va faire, Nasser? Il va lui faire des caresses dans le dos.
Non, mais on en a déjà parlé de ça. Mais.
Possible. Et c'est une question de communication d'image que tu renvoies. Thomas, c'est très négatif.
Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, Thomas.
Pas de soucis, Nico. Voilà. Merci
bon choix
à toi
demain. Thomas. Voilà, merci, bonne soirée,
salut.
Thomas.
Triplé de Sakai.
Ciao, ciao. Tiens, on va accueillir Jean-François, autre supporter du PSG qui nous a appelé au 32-16. Salut, Jean-François.
Bonsoir, l'after.
Bonsoir. Alors, Jean-François, est-ce que tu trouves que Tourelle a raison, toi, de défendre ses joueurs et son staff comme il l'a fait aujourd'hui en conf de presse, alors?
Mais, évidemment, et c'est la première fois que je suis pas d'accord avec Jonathan. Alors, évidemment, quand il parle de Marseille, on peut pas être d'accord, mais quand on parle football, généralement, il est à peu près d'accord. Évidemment que Tourelle, il a mille fois raison de nous défendre. Parce que si Tourelle n'avait pas fait ça, Jonathan le premier leur a expliqué que l'institution PSG, une fois de plus, elle est respectée par personne. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai commencé le PSG en 81. Maintenant, j'habite dans les Landes, hein, donc j'ai 700 bornes. Et ben, demain, je serai au parc. Parce que si nous, on n'est pas là demain, il y a quoi? Alors, ceux qui veulent faire grève, ok, et ben, ils vont se balader dans Paris, il y a plein de trucs à faire, mais ils viennent pas au parc. Parce que demain, c'est les vrais supporters qui seront derrière le PSG. Évidemment qu'on a eu mal contre Manchester. Évidemment qu'on a eu mal. Maintenant, ça fait plaisir à tout le monde. On s'est encore fait mettre parce que la VAR, c'est à chaque fois contre nous, hein.
Non,
il n'y a pas la VAR, on battait Manchester. Alors, ok, on a été nuls. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Mais là, maintenant, on a besoin d'être tous derrière le club. Parce que le jour où il n'y aura plus le Qatar, et j'espère que ça arrivera, il y aura toujours les supporters. Donc demain, on doit être là et pour encourager Paris. En plus, c'est contre Marseille, donc ça va pas être compliqué. Et en plus, on va leur mettre une branlée pour se venger. Mais Jonathan, peux pas dire que Tourelle, il a pas le droit de protéger ses joueurs. Évidemment qu'il doit les protéger. Il a le droit de les engueuler autant qu'il
veut. Attends Thomas, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Pour moi, il doit protéger ses joueurs, il doit protéger le club, mais pas avec ces arguments-là.
Mais attends, tu défends Bernard Lama. Bernard Lama, il a fait quoi? Tu me parles du caractère de Bernard Lama parce qu'à la Coupe du Monde, vous me dites, il est champion du monde. À la Coupe du Monde, il a pas voulu jouer un match.
Mais attends, c'est quand même une figure du Paris Saint-Germain. Regarde ce qu'il a gagné avec le PSG, tu peux pas dire ça, Jean-François.
Non, on est défendu, nous. Loric Sana,
il aurait mieux fait de se taire.
Il a pas le droit de nous attaquer.
Mais Jean-François, juste pour en revenir à ce que disait tout à l'heure Jonathan, le fait que le collectif Ultra Paris dise, nous on fera grève dans les tribunes pendant une demi-heure, voilà, c'est un geste aussi symbolique. Tu le comprends pas, toi, en tant que supporter du PSG?
Je suis pas d'accord pour faire la grève. Mais je comprends à la rigueur que ces gens-là. Parce que c'est pareil. Jonathan, et Dieu sait si je suis toujours d'accord avec lui. Tu passes ton temps à louer le football argentin et tout. Dans le football argentin, t'as le droit au drapeau, t'as le droit à fumigène, t'as le droit à tout. Nous, on a le droit à rien. Donc, c'est pas bien, effectivement, que le collectif Ultra Paris fasse grève une demi-heure. C'est pour montrer un ras-le-bol quelque part. Mais que Tourelle nous défende et que Tourelle dise, moi, je veux que les supporters nous soutiennent, pour une fois qu'on a un mec
qui a pas les bons arguments qu'il emploie.
Ouais, mais argument ou pas,
mais je suis d'accord avec ce que dit Jean-François. Mais c'est des arguments,
Non, mais c'est bravo Jean-François, parce qu'il a raison, finalement. Si Tourelle avait dit, ok, vous avez raison, on aurait dit, les mecs, comme tu disais tout à l'heure, ils baissent leur froc, machin, ils défendent ça.
Là, je pense qu'on est dans un contexte.
On est dans un contexte,
mais sauf que là, on est dans un contexte qui est cataclysmique. Ce qui s'est passé, c'est une situation, et on va pas faire d'état de parallèle foireux, mais c'est un peu on est un peu en état d'urgence là au Paris Saint-Germain après ce qui s'est passé.
En état d'urgence de quoi, Jonathan? On s'est fait arnaquer.
D'accord.
Non, alors, tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas que ça.
On est mauvais. Attends, si on avait perdu 2-1 parce qu'il n'y avait pas ce péno, on aurait dit qu'on n'avait pas été bon, comment on était une équipe qui gère. On ne peut pas, et là, vous n'êtes pas sympa, les journalistes, parce que vous ne pouvez pas, depuis le début de l'année, dire que Tourelle, il a vachement apporté. Mmh. Il a fait rentrer des jeunes. Et puis maintenant, lui tomber dessus.
Et il n'est pas journaliste, Jonathan. Je te le dis tout de suite.
En plus, ouais.
Ouais.
Non, mais les gars, comme Manchester United, hein, les mêmes. Ok, ils perdent une finale une finale de Coupe d'Europe, hein, en mettant 3 buts en 5 minutes. Tout le monde trouve ça génial. On s'est pas foutu de la gueule des autres. Ok, on a merdé un match. On a merdé combien de matchs dans l'année? 2 matchs. Guingamp et eux, au Parc, en plus. C'est tout. 2 matchs où vraiment on n'a pas de cul.
Mais pourquoi tu dis des journalistes, machin, là? Je comprends pas, Jean-François.
Mais non, mais parce que c'est, et puis en plus, c'est vraiment pas l'after, hein. Mais à part quelques mecs que j'ai entendus qui étaient clean, depuis 10 jours, depuis la défaite de Manchester, tout le monde est tombé sur le PSG, comme si on était des nuls, que depuis la remontada,
on
avait
changé. Mais nous-mêmes, on le fait pas, donc c'est pas tout le monde, Jean-François.
C'est pas ça, Jean-François. Le problème, c'est que ce que Tourelle a fait depuis qu'il est arrivé, depuis le début de la saison, il nous a montré beaucoup de choses très positives, une versatilité tactique qui était assez agréable, un très beau football, et je pense que le Paris Saint-Germain, tu vois, avant la catastrophe contre Manchester, c'était une des équipes les plus agréables à voir en Europe. Ceci étant dit, je pense que quand tu te fais éliminer, c'est pas comme ça, que c'est pas un accident, parce que c'est récurrent. T'as déjà eu la remontada, t'as déjà eu le 3-5-2 à Manchester City, t'as eu les deux matchs à Dortmund, t'as été ridicule contre le Real Madrid. Mais en fait, c'est dans l'histoire et dans la narration de l'histoire du club, t'en arrives à un point où les supporters, il y a un ras-le-bol. Alors après, moi, Jean-François, je sais pas comment je l'appelais Thomas. Je suis d'accord avec toi. Il doit défendre ses joueurs. Il doit défendre le club. Il est dans son rôle. Mais encore une fois, moi, ce que je comprends pas, et ce là où je suis pas d'accord avec lui, c'est sur les arguments employés. Les arguments employés, pour moi, ne sont pas les bons. Protège tes joueurs en disant...
Vas-y, Jean-François.
J'espère que cet été, il va demander plus de pouvoir, il va aller plus loin dans sa gestion.
Ah bah, il n'y aura plus Enrique déjà, donc...
Ou peut-être qu'il sera encore là.
Peut-être.
Mais ouais. Moi, franchement, hein, et moi le premier maintenant, moi, ok, Mbappé, on le dégage au Real, et on prend un mec comme Dybala, on retrouve nos valeurs à nous, et voilà. Moi, je regrette hein, mon PSG à moi, ok. Alors maintenant, je suis toujours fidèle, tu vois, j'habite dans les Landes. Demain, je serai là au Parc, je suis monté à Paris pour y être. Mais moi, c'est vrai que mon PSG à moi, qu'on n'a jamais retrouvé, c'est mes Ginola, c'est mes Valdo, c'est mes Ricardo, c'est mes Roche. Alors évidemment qu'il faut faire revenir les anciens et tout. Mais là, on n'a jamais été aussi bien en termes d'un entraîneur. On n'a jamais eu autant de jeunes qui sortent et qui jouent et qui peuvent être bons.
Il faut le confirmer, Tourelle. Faut lui donner un signe de confiance là pour cet été.
Eh ben, c'est aussi nous les supporters de lui montrer qu'effectivement, au lieu de faire la grève parce qu'on a perdu contre Manchester,
c'est encore frais. Okay, Jean-François, c'est encore frais.
C'est fini, hein.
Quoi? C'est encore frais. C'était il y a pas longtemps. C'est il y a
15
jours.
Mais non, c'est pas frais. Rappelle-toi, Jonathan, le soir du match, qu'est-ce qu'il a dit, Marquinhos? Il a dit, comme on dit au Brésil, maintenant c'est le temps de manger la merde et après on verra. Eh ben ça y est, c'est fini le temps maintenant. Demain, si on met 10-0 à Marseille, hein, eh ben c'est fini.
Là, je pense pas que ça sera terminé, parce que ton objectif, c'était en début de saison, c'est quand même la Ligue des Champions. Mais là où t'as dit quelque chose de très juste, et Marquinhos aussi, c'est le temps de manger de la merde. Et justement, je pense que là, l'intérêt de, tu vois, c'est de faire profil bas, de respecter la décision contestable ou pas des supporters, et de comprendre leur colère, parce que, somme toute, ça fait 15 jours que ça s'est passé.
Mais dimanche, ils ont compris la colère, dimanche déjà.
À Marseille, les vrais supporters, ce sera réglé. On espère que l'année prochaine, ça ira mieux et qu'il y aura des changements, parce qu'il y a des gens qui n'ont plus rien à faire, effectivement, dans notre club.
Mais il y en aura des changements.
À commencer par en haut à la direction. Mais tu verras que si on en met 10 à Marseille demain, je peux te dire que le championnat, il est voilà.
Les mecs, vous avez cité.
Les vrais supporters, je te parle pas des mecs qui viennent au Parc maintenant parce que c'est les paillettes et compagnie, hein. Mais les vrais supporters, on n'attend pas que la Ligue des Champions. C'est pas vrai. On attend un 10-0 demain contre Marseille.
Bah, bien sûr.
Vous avez cité Marquinhos, les gars.
Mais il y aura un triplé de Sakai.
Il y en a un autre qui aussi qui a une déclat très forte.
Un triplé de quoi? De Sakai?
Il y en a un autre, les gars, qui a une déclat très forte également. C'est Thiago Silva.
Alors, je dois juste dire à notre supporter, excuse.
Mais c'est mignon, tu le prends par le callback, tu lui mets une bape à l'air-tour et tu lui dis de pas parler.
S'il y a bien un joueur à blâmer, c'est bien lui, hein.
Et il est pas obligatoire le service militaire au Brésil, pétard.
Merci, tiens, qu'il y a français depuis hier, Thiago Silva. Merci Jean-François d'avoir été avec nous. Et on accueille Cédric, autre supporter du Paris Saint-Germain. Salut Cédric.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pas d'accord.
Il y a du monde qui appelle ce soir au 32-16. Ça vous fait réagir les déclarations de Thomas Tourelle. Tiens, Cédric, reste avec nous.
Oui.
Tu reviens dans quelques instants. Faut qu'on fasse une petite pause. Parce qu'il faut qu'on paye tous nos salaires, surtout celui de Fred Picken qui est avec nous.
Et en plus, il s'en vante. Il nous a pas dit qu'il fraudait le fisc en plus tout à l'heure pendant la pub.
Arrêtez, ils vont débarquer.
Non, mais lui, tu vois, t'es déjà là. C'est-à-dire, t'es hors cadre. Le mec, il va encore là-haut. Tu sais, il invente des cadres. Cédric, à tout de suite, ok,
oui,
mon pote?
À tout de suite.
À tout de suite. Allez, on vous attend au 32-16 pour revenir donc sur les déclarations de Thomas Tourelle avec Fred Picken et Jonathan McCardy. Et Cédric, donc.
RMC. L'Afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Jonathan Macardy et de Fred Piquion. Je vous rappelle les résultats de ce samedi, 29e journée de Ligue 1. Saint-Etienne qui gagne 5-0 à Caen. Guingamp qui bat Dijon 1-0. 0-0 entre Angers et Amiens et 2-2 entre Nîmes et Strasbourg. Et puis demain, il y a Paris Saint-Germain-Marseille. Le choc de cette 29e journée. Thomas Tuchel qui était aujourd'hui en conférence de presse, qui a répondu aux supporters parisiens mécontents après l'élimination en Ligue des Champions. Aux anciens joueurs du PSG, qui était franchement vénère. Et puis on est avec Cédric qui nous appelait au 32-16 et qui voulait réagir justement aux déclarations de Thomas Tuchel. Rebonsoir Cédric. Alors d'accord ou pas d'accord avec Tuchel, toi Cédric?
Moi je suis d'accord avec Tuchel.
Vas-y.
Il défend ses joueurs, même si dans ce qui s'est passé contre Manchester, je suis pas d'accord avec ce qu'on a vu parce que c'était une catastrophe. Mais il y a certains joueurs qui se sont vus trop beaux. Beaucoup trop beau, genre Mbappé, genre Kerrer, des joueurs qui ont été en dessous de tout pendant ces matchs-là et qui permettent de la ramener après.
Et des joueurs qui se sont fait dessus aussi un petit peu quand même, hein.
Pardon?
Et des joueurs qui se sont fait dessus aussi.
Ah oui, beaucoup de joueurs qui se sont fait dessus, ouais. Mais qui a loupé les face-à-face devant le gardien? Il y en a qu'un.
Eh, mais t'as aussi Thiago Silva qui joue 10-15 mètres trop bas.
Oui, Kerrer qui fait sa connerie joueurs. Aussi au bout de 4 minutes, ça on est d'accord. Mais moi le problème c'est que je suis supporter du PSG depuis 38 ans. Donc je vais au parc, j'allais au parc assez régulièrement depuis. Maintenant je peux aller moins souvent parce que j'habite loin. Mais demain, s'il doit y avoir une grève, je suis pas d'accord avec ça parce que c'est Marseille demain.
Et justement, tu trouves pas que symboliquement, c'est un signal fort de montrer que en tant que supporter, t'en as marre de te ridiculiser à chaque printemps européen?
Je vais aller plus loin que ce que dit d'ailleurs Jonathan, mais ça fait 38 ans que t'es abonné du Paris Saint-Germain. Il y a déjà eu des mouvements d'humeur, je dirais, de la part des supporters du PSG à l'époque. Je dis pas que tu cautionnais, mais qu'est-ce qui fait que demain, tu comprennes pas ce mouvement de grève de la part des supporters du PSG?
Demain, c'est Marseille. Okay. C'est juste parce que c'est Marseille.
C'est juste ça, au fait.
Ouais. Ça serait Guingamp, Dijon, je serais d'accord avec ça. Demain, s'il y a une, comme disait l'auditeur d'avant, s'il y a une branlée contre Marseille, je vais pas dire que tout sera oublié,
mais il y aura un triplé de Saka.
Ça passera mieux. Non. C'est pas possible.
On peut pas dire qu'il y a des supporters.
Moi, j'allais au parc, il y avait Diané, il y avait tous les joueurs. J'ai un ami qui, encore aujourd'hui, j'ai un ami qui était défenseur au PSG. Donc, il m'a expliqué ce qui se passait. Et quand j'entends des joueurs comme Sana oser ramener sa fraise alors qu'il est parti à Marseille.
Il est dans son rôle d'ambassadeur, enfin de mec qui supporte l'OM, tu vois ce que je veux dire.
Que Lamat parle, que Roten parle, que des joueurs.
Mais Sana, ce qu'il faut sortir du lot. Sana, c'est comme, si je le mets dans le même lot de déclarations que le tweet de Payet ou de Bounassar.
Ouais, mais Payet, il ramène le seul trophée qu'il a, c'est avoir
c'est stupide. On est d'accord que c'est totalement stupide ce qu'il a fait. Surtout quand tu fais la saison que t'as fait, que tu te fais sortir par Limassol en Europa League.
J'habite près de Lille, je me fais chambrer depuis 10 jours par les supporters lillois, par les supporters lensois, par les supporters marseillais, qui regardent la Coupe d'Europe à la télé depuis des années, qui font rien en championnat, et qui se permettent encore de venir, moi, me la ramener, alors que quand je vais dans n'importe quel stade, il va avoir le Lille PSG dans pas longtemps.
J'ai envie de te dire, Cédric, habituellement, c'est toi qui les chambres. Tu vois ce que je veux dire?
Non, entre supporters, c'est de très bonne guerre.
Après ce match à Manchester, Cédric,
faut pas tout confondre. Il y a les joueurs comme Payet qui ont pas le droit d'ouvrir parce que vu la saison qu'ils font et quand tu te fais sortir par Limassol en Coupe d'Europe, tu te tais. Et puis après, il y a le jeu avec les autres supporters et c'est totalement normal.
Juste une chose,
le community manager du PSG avait mis un tweet quand Marseille s'est fait sortir
d'Europa
League.
Juste une chose quand même, parce qu'on parlait des anciens joueurs du PSG. Il y a aussi d'autres anciens joueurs, et je pense notamment à Paoletta qui s'est exprimé, alors qui ont eu, on va dire, un discours un peu plus positif, quoi. Qui ont dit, voilà, il espère que les supporters donneront de la voix dimanche face à l'Olympique de Marseille. Enfin voilà, tout à l'heure on parlait d'anciens joueurs du Paris Saint-Germain, il y en a aussi d'autres qui vont un peu dans le sens de ce que dit Thomas Tuchel également.
Ah oui, mais c'est un ambassadeur de toute façon. Ouais. Paoletta, c'est quelqu'un du club, c'est tu vois,
c'est Paoletta, il y a toujours tout mouillé quand il était au club, il a toujours tout fait pour le club.
Non, mais il est à fond derrière le club et c'est quelqu'un comme ça, moi je trouve qui serait, tu vois, à un moment donné on a pris un Patrick Kluivert. pourquoi tu vas chercher un Kluivert,
un
Kluivert, alors que t'as par exemple un Paoletta, tu le mets ambassadeur du club, je sais même pas ce qu'il fait exactement, mais un mec comme lui, pourquoi il a pas de réseau, Paoletta? Il connaît personne.
C'est le PSG, un club d'envergure européenne avec qui a la Ligue des Champions d'objectif. Tu peux pas mettre un mec comme ça au Sportif.
Donc, Kluivert, tu pouvais le mettre alors.
Mais Kluivert, c'était un emploi fictif. C'était Pénélope. C'était pendant l'affaire Pénélope. Kluivert, c'est encore un choix catastrophique du président du Paris Saint-Germain.
Merci à Cédric d'avoir été avec nous. On vous rappelle quand même cette information. Mario Balotelli n'a pas fait le déplacement avec les joueurs de l'OM. Il est a priori grippé, l'attaquant italien de l'Olympique de Marseille. Quelques petites infos. Demain à 14h30, il y a Lyon-Montpellier. Anthony Lopez et Ferland Mendy sont forfaits. À 17h, il y a Rennes-Bordeaux. Alors c'est marrant ce qui s'est passé avec Ben Arfa. Le Stade Rennais qui a communiqué un groupe élargi de 26 joueurs sur Twitter. Ben Arfa n'était pas dedans. Ils ont effacé le tweet. Ils ont remis un tweet où Ben Arfa est finalement dedans. Donc finalement, il est dans le groupe, Atem Ben Arfa. Groupe élargi.
Ils partent à 26 à Bordeaux?
Il y a un groupe élargi, j'en sais rien. En tout cas, il y avait un groupe élargi. Et puis, tiens, une petite info qui est marrante également, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain. La justice française qui a refusé qu'un couple de Brive-la-Gaillarde appelle son enfant Griezmann Mbappé.
Ouais, non, mais alors là, le gamin, tu le prends, tu l'enlèves, hein.
Alors, du coup, il va s'appeler Dany Noé. Voilà.
Si tu veux appeler ton gamin Griezmann Mbappé, je pense que l'enfant doit être placé dans une famille d'accueil d'urgence, quoi.
Ou au Paris Saint-Germain. Ouais. Ou à l'Atlético. Bon. Merci beaucoup, Jonathan Macardy.
Bien sûr. Darren Till contre Jorge Masvidal sur direct sur RMC Sport 4. Bonsoir. Tout de suite. Ne loupez pas ça. Mais c'est l'échelle. C'est le groupe.
Merci, Fred Picken. Merci, Jérôme Thomas. Merci.
Je dirai ça aux collègues d'RMC Sport 4.
Merci,
Allez, bonne soirée.
Allez, bonne soirée.
Ciao, ciao.
Bonne Saint-Patrick à toutes.
Ouais, c'est ça.
RMC. L'After Foot.